6h30 sur France Culture et le journal d'Adrien Taufelet. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il n'avait aucune véritable opposition, vous l'avez dit, sa victoire est donc sans conteste. Vladimir Poutine est réélu président de la Russie avec 87% des suffrages récoltés, selon les premières estimations. Un record pour le dirigeant qui renforce un peu plus sa position d'homme d'État incontesté dans le monde.
Vous voyez, j'ai exagéré, j'ai dit 88%. En Haïti, la violence des gangs et la société au bord de l'effondrement comparée au film de science-fiction catastrophe. Par la directrice de l'UNICEF, elle appelle à une reprise de contrôle du territoire, vous l'entendrez.
Et puis en France, les mesures du choc des savoirs ont été publiées au journal officiel hier, notamment les groupes de niveau en maths et en français au collège qui n'auront pas ce nom, mais le changement de vocabulaire est loin de convaincre. Sans une victoire encore plus large qu'à la présidentielle de 2018, un score de 10 points supérieur, Vladimir Poutine a été réélu hier pour un nouveau mandat de 6 ans à la tête de la Russie, récoltant 87% des voix exprimées. Un score énorme, même pour le maître du Kremlin, ce que n'ont pas manqué de remarquer plusieurs pays, comme la Pologne ou la Grande-Bretagne, qui considèrent que cette élection n'a été ni libre ni honnête. À Moscou, les précisions de Sylvain Tranchet.
Les sondages officiels lui promettaient 80-82%. Finalement, c'est avec plus de 87% des voix que Vladimir Poutine va être proclamé vainqueur. C'est plus de 10 points que ce qu'il avait obtenu lors de sa dernière élection. Certains opposants russes notent qu'il surpasse même maintenant le Biélorusse Alexandre Loukachenko, qui n'avait été réélu, lui, qu'avec 80% des voix en 2020. Dans la région, il n'y a guère que les dictatures que sont l'Azerbaïdjan ou le Turkménistan où les présidents obtiennent des scores supérieurs. En l'absence d'observateurs indépendants, cette année, et dans un contexte répressif très dur, très peu de cas de fraude ont été signalés, contrairement aux élections précédentes. Ceci dit, des résultats suspects, comme ces villes où tous les bureaux ont exactement le même taux de participation, ou la présence de policiers dans les bureaux observant de très près ce que faisaient les électeurs, rappellent que la Russie a une longue tradition de fraude électorale. Même la participation historique pour une présidentielle hier en Russie reste difficilement explicable, mais le Kremlin voulait une victoire nette au service de l'image qu'il revendique d'un pays mobilisé et soudé derrière son président. Même ses adversaires saluaient sa performance hier soir.
Dans son discours de victoire hier soir, Vladimir Poutine a également affirmé que son pays ne se laissera pas intimider ni écraser dans sa guerre contre l'Ukraine. Il a également dénigré son ancien opposant Alexei Navalny en citant son nom, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Sa mort est un événement triste, a-t-il dit, mais nous avons eu d'autres cas où des personnes en prison sont décédées. Il affirme également qu'il avait donné son accord pour un échange de prisonniers comprenant Alexei Navalny peu avant la mort de l'opposant. Au Proche-Orient, l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, est une nouvelle fois le théâtre d'une opération de l'armée israélienne depuis cette nuit. L'armée cible l'établissement avec des frappes aériennes et des dizaines de chars et de blindés tout autour pour une nouvelle fois traquer des terroristes haut gradés du Hamas dans cet établissement où des dizaines de milliers de déplacés de toute l'enclave palestinienne sont réfugiés. Une offensive surprise alors que se prépare celle de Rafah, la ville au sud de Gaza où le gouvernement israélien entend éradiquer le Hamas, malgré les critiques venant de l'Allemagne et des États-Unis, notamment ces derniers jours, qui s'inquiètent du sort des populations civiles. L'offensive aura bien lieu, assure Benjamin Netanyahou, tout en assurant que les Palestiniens seront évacués avant toute opération militaire. Plus d'un million et demi de réfugiés s'y trouvent, selon l'ONU. En Haïti, l'UNICEF alerte sur une situation apocalyptique, alors que les gangs qui dominent le territoire ont poussé le Premier ministre à quitter son poste, laissant l'île sans pouvoir exécutif. Catherine Russell, directrice exécutive de l'UNICEF, décrit des situations dignes du film de science-fiction Mad Max, qui décrit un monde en plein effondrement sociétal. Impossible, ou presque, explique-t-elle, d'acheminer de l'aide vers l'île depuis les Caraïbes, confrontée à une flambée de violence de la part des gangs depuis des semaines, on l'écoute.
La situation en Haïti est horrible. J'y étais il y a quelques mois et déjà à l'époque, il y avait une telle violence. Les gangs contrôlaient alors une partie de la capitale. Ils contrôlent désormais plus ou moins toute la ville, ainsi que l'aéroport. Énormément de gens souffrent sévèrement de la faim et de la malnutrition. C'est comme une scène tirée de Mad Max. Il y a des gangs, des justiciers qui les affrontent. Il faut d'une façon ou d'une autre que nous reprenions plus de contrôle sur la situation afin que l'aide humanitaire puisse être acheminée. Cette population a souffert encore et encore depuis des années. Séismes, choléra, le Covid, littéralement les crises ont succédé aux crises pour Haïti. Ce qui se passe en ce moment, c'est le pire que l'on ait vu depuis des décennies.
Catherine Russell de l'UNICEF, interrogée à la télévision américaine CBS. Un nouveau tir de missile balistique par la Corée du Nord ce matin. Les projectiles ont été lancés en direction de la mer du Japon. Et le moment n'est certainement pas choisi au hasard. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite depuis hier en Corée du Sud. Ces tirs sont jugés menaçants par Washington qui les condamne.
6h35 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Adrien Toffolet. Selon la dernière parution au journal officiel hier, il y aura bien des groupes au collège en français et en mathématiques.
La mesure s'appliquera comme prévu à la rentrée prochaine en 6e et en 5e, puis à la rentrée suivante en 2025, en 4e et en 3e. Mais il n'est plus question de groupe de niveau, selon l'expression chère à Gabriel Attal, sa ministre Nicole Belloubet, qui avait délaissé ce terme, imprime ainsi sa marque. Les enseignements de français et de mathématiques se sont organisés en groupe, constitué en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs, peut-on lire au journal officiel. Une nuance qui ne change pas grand-chose au vaste mouvement de protestation contre cette mesure, Sonia Princey.
Le changement de vocabulaire ne convainc pas. Les élèves seront toujours répartis selon leur niveau de compétence. Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du principal syndicat d'enseignants SNES-FSU.
Certes, on ne parle plus de groupe de niveau, mais il est quand même indiqué qu'il y aura le groupe des élèves les plus faibles. Donc, on est bien sur une forme de tri des élèves. Et puis, cet arrêté, il dessine quand même une usine à gaz en termes d'organisation avec un alourdissement de la charge de travail des professeurs. Donc, tout ça est inacceptable et c'est pour ça qu'on va continuer la mobilisation.
Les élèves passeront au maximum un tiers de l'année en classe entière, en français et en mathématiques, ce qui risque de perturber les jeunes collégiens, selon Grégoire Ancel, président de la FCPE, première organisation des parents d'élèves.
Pour des élèves de 6e qui ont déjà beaucoup de mal à s'adapter au collège, à son organisation, ils vont avoir deux enseignants de mathématiques et de français, une fois un enseignant probablement pendant les groupes et un autre enseignant lorsqu'ils reviendront en classe entière. Et ça fait également exploser le collectif classe qui est très important et très structurant à cet âge en tant que repère.
Les chefs d'établissement de leur côté continuent à réclamer des moyens supplémentaires. Les 2300 postes promis pour ce dispositif sont insuffisants pour sa mise en place à la rentrée prochaine.
Jean-Lémarie reviendra sur la mise en place de ces groupes de niveau ou de besoin dans son billet politique avec la question au collège, la séparation est-elle la solution? La ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet est en tout cas attendue ce matin au collège Édouard Herriot de Chenove en Côte d'Or. Visite de soutien aux équipes éducatives de l'établissement où vendredi la principale a été menacée avec un couteau par un élève de 15 ans. Le mineur a été placé hier soir en détention provisoire après sa mise en examen. Le temps de ce lundi couvert ce matin sur l'ensemble du pays avec de la pluie sur le Jura, les Vosges et les Alpes. Cet après-midi, le ciel va se dégager par le sud avec un grand soleil en Méditerranée. Les températures matinales sont douces, 12 degrés sur la moitié nord, entre 15 et 17 degrés au sud.